Alors, il arrive que quand on lit la Bible, la parole de Dieu, il y a des choses qui nous surprennent. Et quand même, il y a des versets qui sont assez particuliers, un peu étranges, et on n'arrive pas toujours à trouver le sens. Alors pour cela, il y a plusieurs choses, hein. Vous relisez plusieurs fois le passage et le chapitre, et vous regardez aussi un petit peu le contexte. Alors ce matin, le passage en question, c'est ce verset qui m'a interpellé plusieurs fois, assez particulier, et ça rejoint tout à fait ce qu'a partagé Bettina. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 et au verset 7. C'est un verset qui m'a surpris, c'est au sujet de Caïn. Il est dit, on reviendra sur le contexte, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est quand même assez curieux. Donc j'ai été interpellé par la présence et surtout par ce côté un peu la dangerosité, je dirais, de ce péché. Ce péché qui a conduit quand même Caïn au meurtre. Alors ce péché, qui était là, il était prêt à bondir et il avait pris ses quartiers dans la personne de Caïn. Puisqu'il est dit, ce péché avait ses désirs sur toi. Alors à la première lecture, on passe rapidement dessus et on se dit qu'il s'agit soit d'un mauvais esprit ou une force occulte ou un péché qui est enfoui dans la personne de Caïn. Enfin, quel que soit ce péché, Dieu lui a dit qu'il pouvait décider de le laisser à la porte et qu'il pouvait le dominer. Alors vous allez dire, c'est quand même un sujet un peu étrange, mais je pense quand même que dans la Bible, il n'y a pas que des choses qui concernent la louange, il y a aussi des enseignements précis sur la vie chrétienne où il nous est demandé d'être vigilants. Alors cette question est, qu'est-ce que c'est ce péché si menaçant? Est-ce que cette situation, est-ce qu'elle me touche, est-ce qu'elle me concerne? Alors, suis-je confronté à ce type de situation? Suis-je aussi vulnérable que l'était Caïn? Alors, je réponds par la négative, non, la réponse est non, mais quand même, l'avertissement demeure. Alors, en tant que chrétien, c'est vrai que nous sommes, il est bon de le rappeler, protégés et revêtus des armes spirituelles, et j'y reviendrai plus tard. Une fois qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, nous savons que son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais alors, pourquoi insister, parler de cela? Parce que même si nous sommes devenus de nouvelles créatures, on reste pécheurs. Et Dieu veut nous rendre attentifs au combat spirituel. Il veut nous montrer que nous devons, comme ça a été bien partagé, confesser nos fautes, surtout ne pas tolérer des choses qu'on refuse de livrer à Dieu. Ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être des amertumes, des rancœurs ou des choses intimes qu'on refuse, si vous voulez, d'abandonner en disant non, ça n'est pas grave. Car si on refuse, si vous voulez, de confesser certaines choses, on attriste le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, on ne perd pas son salut en tant que chrétien, mais on régresse, on se sent malheureux, on s'éloigne, puis on peut s'isoler. C'est ce qu'on peut appeler une forme de dépression spirituelle. Et Dieu ne nous a pas appelés à vivre cela. Au contraire, nous sommes là pour avancer et vivre une vie pleine et épanouie. Mais quand même, ce verset m'a intrigué, car j'ai parfois senti que des pensées négatives voulaient rentrer en moi et que j'ai eu la prudence d'en refuser l'accès. Car on peut être parfois tenté de se laisser prendre soit par curiosité, soit par faiblesse. Mais heureusement, l'apôtre Paul nous dit, même si on est chrétien, de résister au mal, car le diable est comme un lion rugissant. Alors c'est ça que veut nous dire ce verset. Ce péché qui est couché à notre porte, il ne s'agit pas d'être dans la peur ou dans la paranoïa, mais tout simplement d'être vigilant. Alors il est clair que nous ne sommes pas en tant que chrétiens dans la même situation que l'était Caïn, hein, parce qu'il faut le rappeler que nous sommes devenus de nouvelles créatures et que le Christ a vaincu le péché. Nous sommes morts au péché, mais quand même on reste pécheurs. C'est vrai que je vais un peu insister là-dessus. Et on va revenir au texte pour voir ce qui se passe et on va essayer d'étudier rapidement le contexte et tirer quelques principes spirituels. Donc, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, hein, du verset 1 à 7, je vous lis, « Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn était laboureur. » Alors, jusqu'ici, les choses continuent leur cours. Hein. Malgré le péché, l'espèce humaine se reproduit et chacun va trouver sa place. Abel va s'occuper des animaux d'élevage. Abel, oui, va s'occuper de l'élevage. Hein, c'était comme ça qu'étaient réparties les choses. Et Caïn, lui, s'occupera des choses de la terre. Mais comme le péché est rentré dans le monde, le mal va commencer à se faire une place. Donc, je continue la lecture, toujours au chapitre 4 et au verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors déjà, là, on voit qu'il y a une différence. Caïn fait une offrande, je dirais, végétale, hein, il offre des choses. Alors, rien n'est précisé sur l'offrande de Caïn. Alors que pour Abel, il y a plus de détails. Il nous est dit qu'il a pris soin de donner les choses qui étaient le meilleur à Dieu. Alors, la différence vient surtout du cœur d'Abel. Il est vrai que le texte ne mentionne pas d'explication sur le fait que Dieu a préféré l'offrande d'Abel et a refusé celle de Caïn. Et c'est vrai qu'à cette époque, hein, c'est les débuts de l'humanité, la vie religieuse n'était pas aussi codifiée qu'après. Hein. Dieu donnait toujours ses instructions de personne à personne et de façon orale. Comme ça, il parlait directement aux hommes. Et c'est vrai que dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, on parle assez peu d'un sacrifice d'expiation. C'est des choses qui arriveront plus tard et qui vont s'installer dans la vie d'Israël. Alors, c'est vrai que là, je vais faire appel à certains commentateurs qui disaient que Caïn, quand il a offert ce sacrifice, il a fait simplement un geste, une sorte de rituel païen. Alors bien sûr, c'est une interprétation, mais on sait que Caïn n'était pas proche de Dieu. C'est quand même un personnage qui, on va essayer un peu de comprendre son parcours. Cela permettra de voir pourquoi Dieu l'a prévenu du danger du péché qui était couché à sa porte. Alors, pour faire un petit rappel, on sait que Caïn est le premier-né de sa mère, et sa mère dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de Dieu ». Et ça, c'est important. Alors, certains commentateurs pensent que Ève croyait que Dieu lui avait donné Caïn pour régner sur la terre, et qu'il devait accomplir la prophétie, vous savez, cette fameuse prophétie, un chapitre avant, au chapitre 3, au verset 15, où il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui briseras le talon. » Alors, je dirais que la grosse erreur de d'Ève, c'est d'avoir cru que c'était Caïn qui allait accomplir cette prophétie, alors que cette prophétie s'adresse à Jésus-Christ. Alors c'est vrai que c'est une interprétation, mais qui a été donnée par plusieurs commentateurs, plusieurs exégètes, mais peu importe. Il n'empêche que Ève, elle a peut-être fait cela avec son fils Caïn. Donc vous imaginez un petit peu le tableau. Si elle avait cette perspective sur Caïn, qui était une fausse perspective, elle lui a fait croire qu'il allait régner sur l'humanité, elle lui a fait croire à des rêves de puissance. D'ailleurs, même quand elle donne le nom de Caïn, elle dit que c'était un homme qui était, dans la traduction, que c'était un homme qui était envoyé par Yahvé, c'est-à-dire par Dieu. C'est peut-être cela qui a pensait que Caïn avait une mission particulière et que c'est lui qui allait enlever la, la malédiction et qui écraserait la tête du serpent. Bon, de toute manière, Caïn n'avait pas une bonne attitude de cœur. Donc le Nouveau Testament nous le rappelle, hein, et la descendance de Caïn nous montre qu'il y a eu toute une génération de personnes qui étaient rebelles à Dieu, notamment un personnage comme Lémec. Donc c'est vrai que ça donne pas mal d'indications sur le personnage, mais on va continuer à essayer de découvrir son profil et surtout de faire la lumière sur ce verset. Donc je le rappelle, c'est la deuxième partie du verset qui m'a intrigué. Au Genèse, chapitre 4 et au verset 7, « Le péché est couché à ta porte et ses désirs se sont portés sur toi. » Alors, pour comprendre, si vous voulez, un peu la partie spirituelle de ce verset, il faut voir un peu cela comme un avertissement de prudence, et c'est surtout sur son attitude qu'il faut s'attarder. Alors, Dieu ne va pas agréer l'offrande de Caïn. Et Caïn, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il va s'enfoncer dans des sentiments de rancœur, d'amertume. Et je pense que pour nous, il y a une leçon à retenir, c'est ce que nous a partagé aussi Bettina. Il est dangereux, si vous voulez, dans notre vie spirituelle, de garder en soi des choses qu'on ne veut pas livrer à Dieu. Soit par orgueil, soit parce que on minimise certaines choses et on se dit, bon, c'est pas grave. Et c'est un peu en cela que Dieu nous prévient et qu'il y a des choses, des fois, qui sont là, tapis à notre porte et qu'il faut être vigilant. Et ça peut être, comme je le disais, des rancœurs, des amertumes, un rejet. Bon, la liste est un petit peu longue. Et Caïn, lui, il s'est pas remis en question. Et il s'est considéré un petit peu comme une victime. Et tout cela explique pourquoi ce péché s'est accumulé et que finalement, il était à côté, je dirais, à côté d'une bombe qui était prête à exploser. Mais par contre, Dieu lui tend la main, mais il refuse le mensonge, et Dieu quand même regarde le cœur de Caïn, et il lui demande de changer. Il lui dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Alors je pense que chez Caïn, il y avait autre chose que des mauvais sentiments. Dans d'autres passages, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il avait fait de mauvaises œuvres. Il faut savoir qu'au début de l'humanité, le mal était monté à un degré tel que ça devenait insoutenable et c'est ce qui provoquera le déluge. Donc ça devait être un personnage violent et ses colères et ses frustrations ont dû créer un lourd passif. Ce qui explique un petit peu, si vous voulez, pourquoi il a tué son frère. Alors c'est aussi une leçon de vie pour nous en tant que chrétiens parce qu'on a souvent beaucoup de difficultés à laisser entrer Dieu au plus profond de nous. On le fait, on le dit, on le chante, on le répète, mais c'est pas forcément quelque chose que l'on fait facilement de dire, tiens, Dieu fait la lumière un peu sur tout ce qui est au fond de moi. Et on doit savoir que tout ce qui est toxique, c'est de minimiser les choses, les péchés, les amertumes, les choses qui n'ont pas été confessées ou exprimées ou livrées à Dieu. Heureusement, le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous éclairent et elle sait mettre le doigt là où les choses ne vont pas. Et c'est ça le péché qui se tient à la porte de Caïn. Alors on va poursuivre un petit peu notre enquête sur le profil de ce personnage. Vous voyez, c'est toujours intéressant, il y a des versets comme ça, on croit que c'est des généralités, et quand on regarde un petit peu plus près, on examine la personne, on examine un peu le contexte et les raisons, et ça nous donne un éclairage, et ça permet aussi d'avoir un peu des profondeurs sur la vie spirituelle, où ce sont des choses importantes pour avancer dans la vie. Alors, si on poursuit le portrait de Caïn, il est clair que c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé, il n'est pas converti. Hein. Dans le livre d'un premier épître de Jean, au chapitre 3, verset 12, il est dit « Ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. » Et dans l'épître de Jude, ils font le même portrait, le même profil pour un personnage comme Ésaü, Balaam et Corée. Alors la question est, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Alors première question, de quel péché s'agit-il ? Et deuxième question, est-ce que je suis concerné? Alors, de quel péché s'agit-il? Il y a eu plusieurs hypothèses. Certains commentateurs ont dit, mais cette chose-là un peu obscure qui est à la porte de Caïn, est-ce que ça serait un démon? Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, on représentait toujours un démon avec une porte. Donc il y a eu un rapprochement. Alors attention, je ne pense pas, car Dieu dit qu'il peut le dominer. Alors ça ne veut pas dire qu'il peut dominer le péché ou ce démon, mais c'est que Caïn avait la possibilité soit d'ouvrir ou soit de fermer la porte. Parce qu'une fois que le péché est entré, Caïn, lui, n'a pas pu se maîtriser et il a tué son frère. Alors, deuxième hypothèse, est-ce qu'il s'agit d'un péché grave? Alors, j'ai été regarder un petit peu dans le texte, le mot hébreu, c'est le mot ata, et ça veut dire, ce péché, c'est quelqu'un qui refuse l'esprit, le sacrifice d'expiation. Ça veut dire qu'il refuse, si vous voulez, de reconnaître son péché et qui rejette catégoriquement le Dieu rédempteur. C'est un péché qui refuse de reconnaître ses erreurs et ses mauvaises pensées et qui refuse surtout de confesser ses actes et ses mauvais sentiments. Alors, qui dit rejet de Dieu, qui dit rejet de la culpabilité, rejet de la repentance, il est clair que ce péché, ça concerne les non-chrétiens. Mais je me dis que si ce texte est là, c'est qu'il a quelque chose aussi à nous dire. Parce que quand même, dans l'Épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 16, il est dit « toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire ». Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et verset 11, ce qui arrive dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit dans la Bible, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, je me sens concerné un peu par ce qui est dit là. Alors, non pas par peur, mais surtout par prudence. Et j'ai essayé de voir s'il y avait un équivalent dans le Nouveau Testament. Et on a quand même cet avertissement qui est de taille, hein, dans l'Épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8, il est dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. » Alors, c'est Satan qui nous pousse à pécher et il n'a rien perdu de sa puissance. Alors, je dirais que ce verset est là pour nous rappeler la réalité et la dangerosité du péché, qui est un péché d'orgueil et d'égoïsme. Alors, c'est vrai que, comme je disais, clairement, en tant que chrétien, nous sommes morts au péché. Le péché a été vaincu à la croix. Le péché ne peut plus me séparer de l'amour de Dieu. Mais quand même, on reste pécheur. Et le péché va continuer à perturber notre vie chrétienne. La différence, c'est que nous pouvons le repousser et nous pouvons nous défendre et vaincre la tentation. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais on doit toujours rester en alerte. Nous ne sommes pas, on n'est pas forcément toujours en communion avec Dieu. Alors je dois être vigilant sur moi-même. Je dois veiller à ne pas me laisser envahir par des mauvaises pensées qui seraient non confessées, quelque chose que je garde au fond de moi, mais que je ne veux pas livrer au Seigneur. Je ne dois pas surtout, pour moi, ce passage, il intervient dans le fait qu'on est quand même environné par des modes de pensée qui sont là et qui essayent de nous éloigner de Dieu. Et ce qui est pointé ici dans ce verset, si vous voulez, c'est le fait que parfois on minimise le péché et on relativise le péché. Alors si nous tolérons trop de choses non réglées, nous freinons, je dirais, notre croissance spirituelle. Et ce péché qui se tient à notre porte peut tout à fait, à tout moment, nous faire régresser, nous amener à faire des erreurs, soit par une rupture, par un échec ou d'autres actes, et nous altérons notre communion avec Dieu. Alors on ne doit pas faire, je veux dire que la vie chrétienne, c'est toujours une invitation à aller de l'avant. On n'est pas amené à faire du surplace. Hein. C'est sans cesse rappelé dans le Nouveau Testament et tout particulièrement dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 13 où il est dit « Nous ne sommes plus des enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans leur manœuvre d'égarement. Et Dieu me demande toujours d'aller vers la stature parfaite de Christ. » Alors, si on est chrétien, il y a mille choses qui peuvent nous blesser. Il y a des influences, des modes de vie ou des pensées qui viennent du monde et dont on ne se méfie pas. C'est vrai qu'on est environné par des choses qui altèrent notre vie chrétienne, et des fois, c'est beaucoup d'idéologies qui sont sur l'émancipation de l'homme, et s'affranchir un petit peu de toute tutelle. Et puis, il y a aussi des idéologies comme ça qui sont présentes dans les médias, comme l'antisémitisme, l'antisionisme, le wokisme, et puis bon, etc., etc. Et si on minimise, je dirais, la puissance et, je dirais, le côté un petit peu anecdotique de ces choses-là, on risque de se faire du mal et d'être blessé. Et surtout, on offense, je dirais, l'honneur de Christ qui, lui, a donné sa vie et nous a libérés totalement du péché. Alors, il y a un autre point aussi qui m'a interpellé dans ce texte, qui soulève un autre problème. Il est dit que le péché avait les désirs chez Caïn. Ça veut dire qu'en lui, il y avait un lieu, une prédisposition qui permettait au péché de s'installer dans sa personne. Alors, je ne vais pas spéculer sur toutes ces choses-là, de se dire que la méchanceté, la violence, et surtout là, si par exemple, on s'enferme dans des attitudes d'orgueil, et qui permettent au diable, sous forme de péché, d'avoir une affinité comme ça l'a été le cas pour Caïn. Alors nous, en tant que chrétiens, on n'est pas dans ce cas, car Dieu, je le redis, a vaincu Satan, et le péché ne doit pas trouver ses désirs en nous. Mais le mal reste vaincu et maîtrisable, mais il est quand même là. Alors tout ce que vous gardez en vous et que vous n'avez pas livré à Christ peut rentrer et endommager, et même des fois, dans la Bible, il est dit, on peut aussi attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que le texte dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais on ne va pas rester quand même pessimiste. Il y a un barrage à tout cela. Et ce barrage, je dirais, c'est ce que nous vivons, c'est-à-dire c'est l'Église, la prière, la lecture de la parole de Dieu, qui nous donne, si vous voulez, un esprit d'adoption et qui permet d'être, si vous voulez, de ne pas tomber dans ces travers. Et aussi, je dirais que la communion que nous avons les uns avec les autres nous permet, si vous voulez, de stimuler notre vie spirituelle. Quand il dit « ce péché couché à ta porte », il doit rester en dehors, car le Christ, ce qui est important, et je conclurai par ce verset biblique, nous a donné quelque chose qui nous permet de résister à tout cela, ce sont les armes spirituelles. Et je vais vous relire ce passage biblique, c'est au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, du verset 13 à 17, et vous verrez que chaque mot a son importance. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme et ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc si le péché est couché à la porte et que ses désirs se portent vers toi, on a tous les pouvoirs pour chasser tout ce qui n'a pas été livré et confessé à Dieu. Et on peut se réjouir de cette liberté que Dieu nous donne pour bien agir et aussi refuser toute incursion du mal. Et je dirais que dans ces temps de confusion, on a besoin de s'exhorter les uns et les autres, de nous encourager. Et c'est avec cette communion spirituelle que on peut, je dirais, poursuivre notre route avec le Seigneur. Alors ce matin, ce verset nous a donné une leçon sur la vigilance. C'est vrai que ce n'était pas très joyeux ce que j'ai dit. Et aussi une vigilance sur notre engagement, c'est-à-dire ne pas rester passif. Alors c'est un stimulant qui nous encourage, je dirais, à approfondir l'Écriture, à se laisser pénétrer par l'Esprit, et surtout aussi de consolider nos liens d'amour, nos liens d'amitié et de solidarité, et surtout d'entretenir notre vie spirituelle. Donc ce matin, que Dieu vous bénisse et que son saint nom soit glorifié par notre témoignage. Amen.